demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-les en pratique, et le Seigneur de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans les besoins. Dans le besoin, pardon. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise. Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Prions, je vais prier pour Keith. Oui, notre Père céleste, c'est vrai que nous voulons, comme à chaque instant, nous attendre à toi. Que tu puisses vraiment nous parler, parler dans nos cœurs, et que tu puisses, au travers de ton serviteur Keith, ce que tu lui as déjà mis à cœur, Seigneur, que par ton esprit aussi, tu puisses parler au travers de lui pour nous enseigner, afin de nous rapprocher de toi et connaître effectivement cette paix que toi seul peux nous donner pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Keith.
Bonjour. Je vais juste monter le micro. Je pense m'acheter une île déserte. J'en ai marre du transport, de la neige, de la pluie. L'année dernière, j'ai reçu 8000 courriers électroniques et je veux avoir la paix. Je veux être heureux. Et savez-vous que c'est bien possible d'acheter une île déserte sur vladiprivéisland.de. Vous pouvez chercher et trouver l'île déserte qui vous intéresse. Alors, le moins cher, la moins chère, coûte 45 livres. Mais malheureusement, c'est en Écosse. C'est interdit de construire sur cette île. Donc, ça ne va pas être très marrant sous la pluie écossaise. Ensuite, je pense plutôt m'acheter Taifa Island. C'est dans l'océan Pacifique. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. L'île ne coûte que 1075 euros. Pardon, 175 000 euros. Excuse-moi. Donc, voilà. Mais c'est loin d'ici. Voilà. Voulez-vous venir à mon île déserte? Voulez-vous venir? Ben, malheureusement, vous n'êtes pas les bienvenus. Parce que trop souvent, ce sont les autres qui compliquent la vie pour nous. Les désaccords, les malentendus, les problèmes de relations. Malheureusement, cette île, c'est un petit peu trop cher pour moi, c'est loin d'ici, donc je vais rester ici. Mais lorsque je reste ici, comment est-ce que nous allons vivre en paix? Comment est-ce que nous allons être heureux ensemble cette année? Le verset 7 de Philippiens 4 que nous venons de lire, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La fin du verset 7, et le Dieu de la paix sera avec vous. Et les versets 10 à 20 décrivent un homme qui est heureux, un homme qui est bien. Et alors, comment avoir cette paix? Comment avoir cette paix? Comment être heureux? C'est notre enquête de ce matin. Lorsque Paul finit sa lettre aux Philippiens, en appliquant tout ce qu'il a déjà dit, pour avoir la paix, surtout dans l'Église, et pour être heureux. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, ce que nous allons voir sont des applications pour le chrétien qui a déjà mis sa confiance en Jésus. Donc, j'espère que ça va vous aider à voir à quoi ça ressemble la vie chrétienne. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Et avant d'avoir la paix avec les autres, il faut avoir la paix avec Dieu qui vient par la foi. Mais j'espère que ce message va vous montrer à quoi ça ressemble la vie chrétienne. Alors, comment avoir la paix dans l'Église? Réagissons bien aux problèmes. Lisons les versets 2 et 3. J'encourage Evody et Sintic à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dans le nom figure dans le livre de vie. Recherchons l'unité. Recherchons l'unité pour avoir la vie dans l'Église. Je crois que ça aurait été un choc énorme pour Evody et Saint-Tich d'entendre leurs disputes dénoncées personnellement et publiquement par Paul il y a 2000 ans, quand cette lettre a été lue pour la première fois dans l'église de Philippe. Mais ça montre l'importance que Paul place sur l'unité. Ces femmes avaient besoin de trouver un accord, de vivre en paix. Et ces femmes avaient besoin aussi de l'aide d'autres personnes pour trouver un accord. Notez que Paul ne dit pas qui a tort. Il encourage simplement les femmes à vivre en plein accord dans le Seigneur. C'est probablement pas un problème de doctrine, sinon Paul, il aurait dit quelque chose, il aurait corrigé ce qu'elles avaient mal compris. Mais ces femmes doivent rechercher l'unité. Peut-être ces femmes doivent être d'accord de ne pas être d'accord pour continuer à travailler ensemble. Mais réagissons bien au problème, recherchons l'unité. Ensuite, le verset 4. « Réjouissons-vous toujours dans le Seigneur. » Es-tu sûr, Paul? Toujours, dans n'importe quelle situation, quand je suis claqué, quand j'ai le cœur brisé, quand j'ai raté ce que je cherchais? Paul anticipe la réponse. Je le répète. Réjouissez-vous. Et en fait, il se répète déjà, si vous regardez le chapitre 3, le verset 1. « Maintenant donc, mes frères et mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Et c'est un homme en chaîne, un homme en prison qui écrit cela. Paul ne se réjouit pas de sa situation en prison, mais il se réjouit de ce que Dieu faisait au travers de sa détention. Et Paul se réjouit de la bonne heure de connaître Jésus et de tout ce que Jésus lui a apporté. Réagissons bien au problème. Ah, il y a un petit bémol là. Et réjouissons-nous. Pour m'aider à me réjouir de temps en temps, j'ai pris le temps de remercier Dieu pour 10 choses avant de me coucher chaque nuit. Ça m'a protégé de sombre dans mes plaintes, dans mes déceptions. Ça m'a beaucoup aidé à avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Pour avoir la paix dans l'Église, recherchons l'unité, réjouissons-nous et puis réagissons raisonnablement. Le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est une commande qui va au-delà de l'Église. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et c'est possible parce que le Seigneur est proche. Jésus revient bientôt et c'est à lui de rendre les comptes, c'est à lui de juger, c'est pas à nous de rendre les comptes et donc nous pouvons réagir avec la douceur. Pas de colère, pas de haine, pas de médisance et même attention à ne pas faire d'une petite situation une montagne. Serait bien que l'Église évangélique de la Garenne-Colombes soit connue pour sa douceur. Serait bien avec tous ces propos qui tournent concernant la loi sur le mariage pour tous, que l'Église évangélique soit connue pour sa douceur. C'est ce que nous disons. Réagissons raisonnablement et puis répondons avec la prière. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et alors, de quoi est-ce que vous vous inquiétez ce matin? Est-ce que vous avez fait connaître ces inquiétudes à Dieu? Ça m'étonne parfois combien je suis lent de parler avec Dieu de ce qui m'inquiète. Quand nous venons à l'église, nous ne laissons pas nos soucis à la porte pour pouvoir venir, mais nous pouvons venir à l'église avec nos soucis, avec nos inquiétudes, avec nos besoins, et les présenter devant Dieu. Nous pouvons aussi en parler avec nos frères et nos sœurs pour qu'ils prient avec nous. Ne soyons pas lents à faire connaître nos besoins à Dieu. Et donc, avant d'aller plus loin, je vous invite maintenant, dans le silence, juste faire connaître vos besoins à Dieu. Quelques instants de silence. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est mieux que toute autre paix que le monde nous propose. C'est mieux que toute autre paix que nous pouvons trouver ailleurs. Mieux que la paix d'une île déserte. Comment avoir la paix dans l'Église, répondant bien aux problèmes, recherchant l'unité, réjouissons-nous, réagissant raisonnablement et répondant dans la prière. Et Dieu connaît les problèmes qui vont surgir cette année 2013. Dieu ne sera pas surpris par les problèmes qui vont nous arriver, mais il dit comment répondre à ces problèmes. Mais ensuite, pour avoir la paix dans l'Église, Dieu, par le biais de Paul, nous encourage à réfléchir à ce qui est bien. Les versets 8 et 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Selon Paul, nous ne sommes pas esclaves de nos pensées, mais nous pouvons cultiver une bonne réflexion et réfléchir à ce qui est bien. Et donc, il nous encourage à porter nos pensées sur tout ce qui est vrai au lieu des spéculations et des rumeurs, sur tout ce qui est honorable et juste au lieu de la médisance ou la colère, sur tout ce qui est pur et digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation et la louange au lieu de ce qui est impur ou caché et contre la volonté de Dieu. Réfléchissons à ce qui est bien. Et où commencer si ce n'est pas en portant nos pensées sur Jésus. Jésus. Et donc, je veux vous lire chapitre 2, les versets 6 à 11 de Philippiens. Lui, Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, la Père. Que ce que nous faisons à l'Église chaque semaine, que les présidences, les messages, les chants, les réunions de semaine, les repas fraternels puissent nous aider à porter nos pensées sur Jésus. Et pendant la semaine, avant d'être assaillis par les actualités, par les pubs, par tout ce qui se passe dans la vie, comment pouvons-nous réfléchir à ce qui est bien? J'ai un ami qui a décidé de lire simplement un chapitre de la Bible chaque semaine. Et donc, il essayait tous les jours de lire le même chapitre de la Bible pour l'aider à réfléchir sur ce qui est bien. Il ne va pas finir la Bible dans un an, mais c'est un but faisable, abordable, qui aide mon ami à réfléchir à ce qui est bien dans une vie hyper, hyper chargée. Sinon, la Ligue pour la lecture de la Bible a créé un site web cette année qui propose 100 textes essentiels de la Bible. Et c'est possible de les lire sur ton smartphone ou sur un ordinateur pour réfléchir à ce qui est bien. Et peut-être un peu de musique. Un peu de musique de Mick, c'est un rappeur chrétien de notre église, pourrait nous aider à réfléchir sur ce qui est bien, plus que Diams ou Section d'Assaut, d'autres artistes. Je crois que le chrétien est libre de lire, écouter, regarder ce qu'il veut. Dieu nous a créés comme des êtres créatifs qui créent et qui aussi apprécient le travail des autres. Mais soyons aussi sages avec ce que nous lisons, ce que nous regardons, pour que ça nous aide à réfléchir sur ce qui est bien. Je suis frappé combien des images, ma scène d'un film que j'ai regardé il y a des années restent toujours dans ma tête. Que Dieu nous aide à réfléchir à ce qui est bien. Et puis le verset 9, j'ai perdu ma place dans la Bible, reproduisant ce qui est bien. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Paul passe de la pensée à la pratique et il encourage les Philippiens à suivre son propre exemple. Nous pouvons reproduire ce qui est bien. Nous pouvons chercher aussi des modèles autour de nous, des modèles qui suivent Jésus, qui nous montrent ce que ça veut dire suivre Jésus dans la vie quotidienne. Nous pouvons chercher ces modèles et les suivre. Et même si nous avons nous-mêmes des responsabilités dans l'Église, on devrait chercher à être nous-mêmes des modèles pour que nous puissions dire là où je suis Jésus, vous pouvez suivre mon exemple. Alors, comment avoir la paix dans l'Église? Réagissons bien aux problèmes, réfléchissons à ce qui est bien et reproduire ce qui est bien. Et le Dieu de la paix sera avec nous. Paul passe de cela à ce que je croyais, c'est une lettre de recherche, de soutien, du genre « Chère Église de Philippe, j'ai besoin de votre argent, voici mon RIB. » Donc je vous invite à lire les versets 10 à 20 avec moi pour voir si c'est vrai. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez, vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été le seul à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche qu'un fruit abondant soit porté sur votre camp. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonheur, bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est une lettre de recherche, de soutien? J'ai besoin de votre argent, voici mon RIB. Mais c'est juste que Paul fait beaucoup plus attention à ce qu'il dit, comme s'il avait honte de demander de l'argent. Je ne crois pas. En fait, le plus que je lis ces versets, le plus que je remarque que Paul ne demande rien. Au contraire, le verset 11, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Le verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons. Le verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je crois que ces versets nous montrent le bonheur de Paul et le bonheur de l'église de Philippe qui travaille en partenariat avec Paul. Donc, comment être heureux? Comment être heureux? D'abord, nous avons la joie de travailler ensemble. Le verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Parce que l'église de Philippe avait envoyé un don avec Épaphrodite à Paul, qui était en prison. Et puis le verset 18, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. Paul prend beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de son partenariat avec les Philippiens. Non seulement dans l'argent, mais aussi dans le fait de prier les uns pour les autres, et d'envoyer des coéquipiers. Il est content de recevoir leurs dons, mais c'est plutôt l'amour et le sacrifice et l'intérêt derrière les dons qui sont plus précieux pour Paul. Et je crois que ce partenariat a apporté beaucoup de joie pour l'église de Philippe aussi. C'est sûr que nos sœurs disputantes, Evodie et Sintich, étaient un petit peu mal à l'aise. Mais sinon, je crois que l'église de Philippe aurait pris beaucoup de joie à être des partenaires avec Paul. Et c'est un thème qui revient beaucoup dans la lettre aux Philippiens, la joie de travailler ensemble. La joie de travailler ensemble pour à notre Seigneur Jésus. Et j'espère que c'est une joie que nous expérimentons. Certes, il y a des moments où on se frotte dans l'Église. La semaine dernière, nous avons parlé de la discipline dans l'Église. Et parfois, c'est mal de dire la vérité les uns aux autres. Mais lorsqu'on voit l'œuvre du Seigneur dans la vie des uns et des autres, ça nous apporte la joie lorsque nous travaillons ensemble pour le Seigneur avec un but commun. Ça nous apporte de la joie, et ça implique qu'il faut travailler ensemble. Parfois ça prend du temps de tisser des liens ensemble, mais si nous restons dans les tribunes de l'Église, nous risquons de rater la joie de jouer sur le terrain ensemble. En tant qu'Église, nous avons un lien avec l'Église de Hollywood en Irlande, et j'espère que ça nous apporte de la joie à nous et à eux aussi. Nous avons aussi des liens avec l'Institut biblique belge, avec les GBU, avec PlayStation, avec un couple qui travaille pour Agape à Rennes, avec Sue Nugu. Et j'espère que cela nous apporte de la joie. Je suis sûr que ça apporte de joie aux autres. En tant que quelqu'un qui vit moi-même de ce que 20 amis et deux églises en Angleterre me donnent chaque mois, je peux témoigner combien ma fiche de salaire et la liste de personnes qui donnent un petit peu chaque mois pour que je puisse manger m'encourage chaque mois. Ça m'encourage énormément chaque mois, et je rends grâce à Dieu. Et si vous donnez à quelqu'un, je suis sûr que c'est pareil pour eux. La joie de travailler ensemble, et pour finir, le contentement de dépendre de Jésus. Le verset 11. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, et je sais vivre dans l'abondance. Partout en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Paul avait appris à être content dans n'importe quelle situation, y compris là où il était en prison. C'est quelque chose qu'il a appris après avoir sûrement grandi dans un milieu aisé. Et nous voyons des raisons pour son contentement dans toute la lettre. Nous voyons que Paul sait que connaître Jésus, c'est mieux et c'est plus important que toute autre chose. Nous voyons aussi son constat ici dans le verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire que Paul pense qu'il peut franchir des murs ou marcher sur l'eau. Mais je crois que ça veut dire que Paul sait qu'il peut supporter n'importe quelle situation avec l'aide de Jésus. Il sait que dans n'importe quelle situation, il est entre les mains de Dieu. Et que Dieu peut et Dieu sait le fortifier pour à cette situation difficile. Paul écrit du contexte d'être un missionnaire soutenu par l'Église de Philippe. Et ce serait bien que nous prions pour nos missionnaires, qu'ils soient contents, dans n'importe quelle situation. Mais au verset 19, Paul écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Paul encourage l'Église de Philippe aussi à faire confiance à Dieu pour leurs besoins et à chercher le contentement de dépendre de Jésus. Et dans notre monde de consommation, tu es fait pour que nous ne soyons plus contents avec ce que nous avons. Je veux toujours un appartement un petit peu plus grand, une voiture un petit peu plus nouvelle, des vêtements un petit peu plus chers. Personnellement, j'ai été un petit peu séduit par les produits Apple et je vois combien cette marque fait tout pour que je ne sois plus content avec mon portable qui n'a que un an et qui marche très très bien et fait tout ce que je veux. Mais quand même, il y a un nouveau produit et voilà, c'est triste. Apprenons, je dois apprendre, apprenons ensemble le contentement de dépendre de Jésus. Que nous soyons contents à la fin de 2013 si notre niveau de vie n'a pas augmenté. Que nous soyons contents même si notre niveau de vie a baissé à la fin de 2013. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire et il y a des situations personnelles parfois très complexes. Mais pour la paix, est-ce que vous voyez ce que Paul nous recommande pour avoir la paix dans l'Église et aussi dans nos vies personnelles? Réagissons bien aux problèmes, réfléchissons à ce qui est bien et reproduisons ce qui est bien. Et pour être heureux, cherchons la joie de travailler ensemble et apprenons le contentement de dépendre de Jésus. Si ça vous semble beaucoup pour ce dimanche matin, est-ce que vous pouvez choisir une chose, prendre une chose à mettre en pratique, à prier cette semaine? Et si ça vous semble beaucoup, il me semble qu'ici nous avons l'image d'une église qui est centrée sur Jésus et aussi un missionnaire qui est centré sur Jésus. Et donc c'est pour ça qu'il peut se réjouir. C'est pour ça qu'il est content dans n'importe quelle situation. Et que Dieu nous aide à être une église et des individus centrés sur Jésus. Je vais prier. Dieu de la paix, nous voulons te connaître, nous voulons connaître ta paix et nous voulons connaître ta joie. Et alors, je prie que nous puissions bien réagir aux problèmes, que nous puissions réfléchir à ce qui est bien et reproduire dans nos vies ce qui est bien. Aide-nous à chercher la joie de travailler ensemble, que ça puisse être quelque chose qui marque notre lien avec d'autres églises et d'autres œuvres chrétiennes. et que nous puissions apprendre le contentement de dépendre de Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle et des siècles. Amen.